VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Bonsoir, il est 17h à Abidjan et 19h à Bujumbura. Plus d'un mois et demi après le début de la contestation, le pouvoir burundais crie victoire et affirme que le mouvement est terminé, alors que le médiateur de l'ONU a décidé de jeter l'éponge. Les précisions de Nicolas Pinault.
Une nouvelle fois, ce jeudi, les rassemblements populaires ont été très discrets dans la capitale Bujumbura. La police et l'armée, toujours très présentes dans les quartiers contestataires, ont réussi à étouffer le mouvement. C'est la raison pour laquelle le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkourikiye, a assuré à l'agence France-Presse qu'il n'y avait plus de manifestations à Bujumbura ou à l'intérieur du pays, aux grand dam des opposants qui ont dénoncé un pur mensonge. Monsieur Nkourikiye a même accusé les médias internationaux d'encourager les manifestations. Amnesty International a dénoncé la récente escalade des menaces contre les journalistes et Reporters sans frontières a souligné que quelques 50 journalistes burundais avaient fui le pays. Sur le plan diplomatique, Saïd Djinnit a jeté l'éponge. Contesté par l'opposition et la société civile burundaise, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs a renoncé à son rôle de médiateur. Les anti-troisième mandat mettaient en doute son impartialité et lui reprochaient de ne pas s'opposer au principe d'un troisième mandat du président burundais.
Tensions politiques en République démocratique du Congo. Le chef de la mission de l'ONU dans le pays, Martin Kobler, propose ses bons offices pour faciliter un dialogue national en vue d'élections apaisées. On écoute le patron de la MONUSCO.
Je salue alors le gouvernement, le président, de lancer les consultations qu'on a fait. Le président, il a convoqué les groupes sociaux, les églises, aussi les partis politiques, et pour avoir des consultations. Je crois qu'il veut aussi parler avec la communauté internationale en ce qui concerne maintenant les bons offices. En anglais, on dit, alors, it takes two to dance a tango. Il faut deux personnes pour danser. Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des deux parties. Ça ne marche pas si on impose, on ne peut pas imposer les bons offices. Nous sommes prêts ici, nous sommes impartials, mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur la résolution 2211. Nous avons le principe de constitutionnalité du calendrier électoral menant jusqu'aux élections au novembre 2016. Nos bons offices, nous sommes prêts à le faire, mais il faut avoir aussi les autres. Normalement, nous allons avoir une réunion aussi, communauté internationale, avec le chef de l'État, et puis on pourra discuter ces choses.
C'était Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en RDC. Extrait fourni par Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika entend mener son quatrième mandat jusqu'à son terme en 2019 et ne prépare pas son frère Saïd, son conseiller spécial, à lui succéder. Une hypothèse souvent évoquée par la presse et l'opposition, a assuré jeudi son directeur de cabinet Ahmed Ouyahia. Je ne pense pas que le peuple algérien soit un peuple monarchiste et je ne pense pas que le Moudjahid, vétéran de la guerre d'indépendance Abdelaziz Bouteflika, qui s'est battu depuis l'âge de 16 ans pour ce pays, ait des visions monarchistes, a affirmé M. Ouyahia lors d'une conférence de presse. Saïd Bouteflika n'est pas quelqu'un qui est en train d'agir en ce sens, a-t-il ajouté en assurant conserver son poste de directeur de cabinet de M. Bouteflika. En raison de la maladie du président victime d'un AVC en 2013, la presse prête à Saïd d'importants pouvoirs. Nous ne sommes pas l'Égypte, a encore dit M. Ouyahia, dans une allusion au président déchu, Mohsin Moubarak, qui préparait son fils à lui succéder. Le président Bouteflika, 78 ans, a été élu en avril 2014 pour un quatrième quinquennat. Il préside et présidera jusqu'à la fin de son mandat, a martelé M. Ouyahia. Le parti du président zimbabwéen Robert Mugabe a remporté les 16 sièges mis en jeu mercredi lors de législatives partielles boycottées par l'opposition. Selon les résultats annoncés jeudi par la radio d'État, le mouvement pour un changement démocratique, principal parti d'opposition, avait dénoncé des menaces contre ses partisans et affirmé qu'on ne lui avait pas permis de consulter les listes électorales gonflées, selon lui, d'électeurs décédés. Il n'avait pas présenté de candidat et avait appelé ses partisans à s'abstenir. Le taux de participation n'a pas été rendu public. Ce scrutin partiel renforce donc l'emprise sur le Parlement de la ZANU-PF de Robert Mugabe, au pouvoir sans interruption depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Les élections avaient été provoquées par l'implosion du MDC qui a exclu 14 de ses députés pour avoir perdu, pour avoir formé un parti dissident. Par ailleurs, deux députés ZANU-PF avaient été évincés pour avoir rejoint l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru, tombée en disgrâce.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Nigeria doit diriger la force régionale contre les islamistes de Boko Haram pour l'ensemble de la durée de ses opérations. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui le président nigérian Muhammadu Buhari lors d'un sommet avec les chefs d'État des pays voisins impliqués dans cette force. Les précisions de Jean-Roger Bion.
D'après l'AFP, le président Buhari s'est opposé lors du sommet d'Abuja à l'idée d'un commandement tournant de la force tous les 6 mois entre les 5 pays contributeurs de troupes. Ces derniers mois, c'est le Tchad qui a été à l'initiative des principales opérations militaires contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Un commandement unique va améliorer l'efficacité de la stratégie militaire dans la mesure où le Nigeria va fournir le gros des troupes et où le principal théâtre des opérations se situe sur le sol nigérian, a estimé M. Buhari. Cette force d'intervention conjointe multinationale est doté de 8 700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Son quartier général sera installé à N'Djamena et il était déjà entendu qu'elle serait commandée à son lancement par un général nigérian. Le Tchad et le Niger se sont cependant plaints d'un manque de coordination avec l'armée nigériane et d'avoir été empêchés de conduire des opérations en profondeur contre Boko Haram sur le territoire nigérian.
Sur le plan international, les forces irakiennes ont tenté de faire reculer le groupe État islamique sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, tout en attendant le renfort de 450 soldats américains supplémentaires. Claire Morin-Gibourg.
L'histoire se répète. C'est après la prise de Mossoul par le groupe État islamique que Barack Obama avait annoncé l'envoi de 300 soldats en Irak. Ils sont aujourd'hui plus de 3000. Après la chute de Ramadi à dominance sunnite, ce sont donc 450 nouveaux experts militaires qui vont être envoyés en Irak dans le but d'accélérer la formation des troupes irakiennes et de permettre une meilleure coordination avec la coalition menée par les États-Unis pour les bombardements aériens. Des militaires qui ont aussi une mission diplomatique, convaincre les sunnites de prendre part à la lutte contre l'État islamique. Sur le terrain irakien, plusieurs opérations militaires sont en cours pour reconquérir les vastes territoires perdus il y a un an, avec des résultats plus ou moins probants. Les Peshmerga, les forces de la région autonome kurde, avançaient au sud et à l'ouest de la ville de Kirkouk, tandis que les troupes fédérales irakiennes et des milices chiites poursuivaient leurs opérations pour sécuriser les alentours de la ville de Badji et de la raffinerie voisine, la plus grande du pays. Les réfugiés qui fuient les violents combats entre forces kurdes et djihadistes dans le nord du pays continuent à affluer en Turquie, qui a annoncé son intention de leur fermer provisoirement sa frontière.
Le pape François a dénoncé aujourd'hui l'accaparement des terres dans les pays pauvres par les entreprises multinationales et d'autres États, recommandant fortement le soutien à l'agriculture vivrière familiale en recevant une délégation d'une conférence de la FAO. L'accaparement des terres cultivables par des entreprises transnationales et des États préoccupe toujours davantage. Non seulement il prive les agriculteurs d'un bien essentiel, mais atteint directement la souveraineté des États. Dans de nombreuses régions, les produits alimentaires partent à l'étranger et la population locale s'appauvrit doublement parce qu'elle n'a ni aliments ni terre, a dit le pape. Eh bien, c'est tout pour ce bulletin. Prochain rendez-vous dans 20 minutes avec Timothée Donangmaï et Morgane Guiriac.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.